Comme a dit Stéphane, c'est vrai qu'il y a des passages dans la Bible qu'on aime mieux que d'autres. Il y a beaucoup de jolies histoires qu'on aime bien raconter, qu'on a vues à l'école du dimanche, que tout le monde connaît, que tout le monde aime. Puis après, il y a aussi des textes qui sont moins connus, et puis dont on n'aime pas forcément parler, et puis qui dérangent un peu. Et on se demande même des fois, mais qu'est-ce que ça fait dans la Bible ? Qu'est-ce que c'est que cette horrible histoire au beau milieu de l'Écriture ? Et donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Juges 19, pour ceux qui suivent. Et puis, je dois dire, j'étais assez soulagé de voir qu'il y avait une école du dimanche et que les enfants sont sortis, parce qu'habituellement, ce n'est pas le texte qu'on leur dit. Donc, je lis le chapitre de Juges 19. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Un Lévite qui séjournait à l'extrémité des monts d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fut infidèle, puis elle le quitta pour aller à la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son jeune serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint. Il resta 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent. Ils y passèrent les nuits. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin, et le Lévite se disposait à partir. Mais le père de la jeune femme dit à son gendre, « Restaure-toi avec un morceau de pain. Vous partirez ensuite. » Ils s'assirent, mangèrent et burent tous deux ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari, « Décide-toi donc à passer la nuit, et que ton cœur se réjouisse. » Le mari se levait pour s'en aller, mais sur les instances de son beau-père, il passa encore là une nuit. Le 5e jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune femme lui dit, « Restaure-toi, je te prie, et attardez-vous jusqu'au déclin du jour. » Et ils mangèrent tous les deux. Le mari se levait pour s'en aller, avec sa concubine et son jeune serviteur, mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, « Voici que le jour baisse, il se fait tard. » Passez donc la nuit. Le jour est sur son déclin. Passez ici la nuit et que ton cœur se réjouisse. Demain, vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route et tu t'en iras dans ta tente. Le mari ne voulut point passer la nuit. Il se leva et partit. Il arriva jusque devant Yébus, qui est Jérusalem, avec les 2 ânes battés et avec sa concubine. Lorsqu'ils furent près de Yébus, le jour avait beaucoup baissé. Le jeune serviteur dit alors à son maître, « Allons, faisons un détour jusqu'à cette ville des Yébousiens, nous y passerons la nuit. » Son maître lui répondit, « Nous ne ferons pas un détour jusqu'à une ville étrangère où il n'y a pas d'Israélites. Nous passerons la nuit à Gibéa. » Il dit encore à son jeune serviteur, « Allons, approchons-nous de l'un de ces endroits, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. » Ils continuèrent à marcher, et le soleil se coucha quand ils furent près de Gibéa, qui appartient à Benjamin. Ils firent un détour jusque-là pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra et s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui l'y recueillit dans sa maison pour y passer la nuit. Et voici qu'un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était des monts d'Éphraïm, il séjournait à Gibéa, tandis que les gens du lieu étaient benjaminites. Il leva les yeux et vit le voyageur sur la place de la ville. Le vieillard lui dit, « Où vas-tu et d'où viens-tu ? » Il lui répondit, « Nous passons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité des monts d'Éphraïm où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda et je me rends à la maison de l'Éternel. Mais il n'y a personne qui me recueille dans sa demeure. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos âmes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Nous n'avons besoin de rien. » Le vieillard dit, « Que la paix soit avec toi. Je me charge de tout ce qu'il te faut. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. » Il les fit entrer dans sa maison et donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici que les hommes de la ville, des vauriens, entourèrent la maison, frappèrent à coups répétés à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. » Le maître de la maison sortit vers eux et leur dit, « Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous en prie. Puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette turpitude. Voici ma fille vierge, ainsi que la concubine de cet homme. Je les fais sortir. Faites leur violence et agissez envers elles comme il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une telle turpitude. » Ces gens ne voulurent pas l'écouter. Alors l'homme saisit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme s'en vint tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari, jusqu'à ce qu'il fît jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, « Lève-toi et allons-nous-en. » Mais il n'y eut point de réponse. Alors le mari la mit sur son âne et partit pour aller chez lui. Il entra dans sa maison, prit le couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent « Jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les Israélites sont montés du pays d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. » Alors voilà, quand on lit l'ensemble du chapitre, c'est une histoire assez sordide. Alors ça commence pas si mal, ça commence par une affaire de couple où il y a un peu des problèmes, mais où voilà, le mari vient, il parle à sa concubine, on se rabiboche et puis ils veulent se remettre en route. Et puis là, il y a même cette scène presque comique où d'abord on passe un certain temps à faire la fête, puis après on se dit ouais, c'est un peu tôt pour partir, on va encore manger. Puis après on a tellement parlé en mangeant qu'on reste encore une nuit. Et puis on remange encore un coup, etc. Donc c'est des scènes qu'on peut assez bien imaginer comment ça se passe. Et puis surtout, ça fait aussi que au moment où finalement on se dit il faut quand même partir, on se trouve en retard par rapport à ce qu'on avait prévu. Et puis faut bien y aller même si c'est pas forcément le meilleur moment. Et puis donc du coup. Ils sont en route, ils ne sont pas encore arrivés chez eux, il faut bien qu'ils passent la nuit quelque part. Alors après, ils arrivent vers Jérusalem, qui à l'époque s'appelle encore Yébus, parce que à l'époque, c'est encore les habitants d'origine des Cananéens qui habitent à Jérusalem. Ces gens ont été battus en combat par Josué, ce qui fait que ce n'est plus les Yébusiens qui dominent la région, mais ils n'ont pas encore été chassés de leur ville, ils sont toujours là, un peu peut-être comme des vassaux, comme une cité plus ou moins indépendante au milieu d'Israël. Et puis, en fait, c'est David, au début de son règne, qui va finalement conquérir Jérusalem pour en faire sa capitale. Donc, pour le moment, c'est encore des étrangers d'une des autres nations. Et puis, le Lévite, il se dit... Ces étrangers, on peut pas vraiment leur faire confiance. On va marcher un peu plus loin jusqu'à Gibea, ce qui fait à peu près 6 kilomètres de plus d'après une des Bibles que j'avais sous la main. Donc il se dit, on va marcher jusqu'à un endroit où il y a des Israélites, c'est des gens à qui, chez qui on sera en sécurité parce qu'ils appartiennent aussi à notre peuple et puis qui suivent les mêmes lois et puis les mêmes règles. Puis donc, il arrive sur la place de la ville qui est normalement à l'entrée et puis normalement les règles de l'hospitalité voudraient que quelqu'un du lieu lui propose l'abri pour passer la nuit. Mais au premier abord, ça ne se passe pas. Et puis donc là, je pense qu'il peut commencer à s'inquiéter. Est-ce qu'on va devoir dormir là, dehors, au froid, et tout, et tout. Et puis bon, tandis qu'il en est là, ben, y a finalement quelqu'un qui arrive, qui est d'ailleurs un étranger, un étranger d'une autre tribu d'Israël en ces jours-là, et puis qui leur offre l'abri. Puis donc là... il peut se sentir rassuré et puis d'ailleurs il se met à manger, à boire et puis apparemment il passe un bon moment. Mais il se trouve que il y a dans cette ville des vauriens, des gens, des gens qui ont aucun principe et puis qui veulent connaître le visiteur qui est en passage là. Peut-être que vous savez, peut-être que vous savez pas, mais connaître dans l'Ancien Testament, c'est souvent un euphémisme pour dire avoir des relations sexuelles avec. Et donc, il y a dans cette ville des gens de mauvaise humeur qui voudraient, violer les visiteurs de passage et puis avoir des relations sexuelles avec. Et puis bon, la personne qui a accueilli les visiteurs chez lui, bien entendu, n'entend pas exactement cette oreille parce que ils sont chez lui, il devrait les protéger. Et puis, bon, là, on peut déjà être aussi étonné de la solution qu'il propose, c'est-à-dire, j'ai une fille et puis il y a la concubine de cet homme. Je vous les laisse, vous faites ce que vous voulez, mais touchez pas à l'homme. Alors, je crois que ça montre, ça montre plusieurs choses. Ça montre qu'à l'époque, le statut de la femme n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Et puis, clairement, il y avait l'homme qui était maître de sa maison et puis les autres qui en dépendaient. Donc, il n'y avait pas le même statut social. Et puis, donc, il juge plus grave que ça soit le chef de famille qui soit atteint plutôt que d'autres personnes. Et puis, peut-être aussi l'impression que à la limite, faut que je fasse attention à ce que je dis, mais que violer une femme, c'est un crime contre cette femme, puis c'est un crime contre l'ordre social parce qu'elle est mariée et puis qu'elle n'est pas... Normalement, elle est réservée à son mari, mais il y a peut-être l'impression que violer un homme, c'est en plus un crime contre l'ordre naturel. C'est-à-dire que non seulement c'est injuste envers la personne concernée, mais qu'en plus, c'est contre nature les relations d'homme à homme. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne va pas du tout de soi. Mais quoi qu'on en pense aujourd'hui, c'est quelque chose qui était, je pense, assez clairement dans la mentalité des Israélites à l'époque. Et puis, donc, voilà, donc même ça, apparemment, les Sévouriens n'étaient pas d'accord. Et puis donc, le Lévite, en catastrophe, en gros, balance sa concubine dehors et puis les laisse faire ce qu'ils veulent avec. Et puis, je crois que clairement dans cette histoire, il y a personne dont il faut suivre le comportement. Et puis cet homme-là, manifestement, n'en est pas à avoir un amour sacrificiel envers sa femme comme le Nouveau Testament nous y invite. Et puis c'est pas non plus un exemple de responsabilité et de courage. Il a une belle part de lâcheté. Et donc voilà que ces vauriens, on arrive au crime et puis abuse de cette femme de telle manière qu'au petit matin, elle en a tellement subi, elle est tellement épuisée qu'elle meurt de tout ce qui lui est arrivé. Et je crois qu'il y a un parallèle qu'on peut faire avec une autre histoire qui se passe dans Genèse 19, qui au départ suit un déroulement assez similaire. C'est-à-dire, il y a Lot qui vit à Sodome avec sa famille, et puis il y a deux anges de Dieu qui arrivent déguisés en voyageurs, et puis personne ne veut les accueillir. Lot les recueille dans sa maison, puis après, il y a toute la ville de Sodome qui se réunit et qui dit aussi, on veut connaître ces hommes qui sont chez toi. Et il y a même Lot qui a le même genre de conception sur l'hospitalité et sur la condition féminine et qui propose de ramener ses deux filles vierges pour pas qu'ils touchent aux visiteurs. Mais là, après, l'histoire se déroule différemment dans le sens où les anges font rentrer tout le monde dans la maison, enfin tout le monde sauf les Vauriens. Ils font en sorte que leurs yeux soient aveuglés, qu'ils ne retrouvent plus la porte. Et puis après, ils font sortir Lot de la ville avec sa famille et la ville est détruite par le feu. Donc, on a deux histoires où le problème est à peu près similaire, mais il y en a une où il y a des anges de Dieu qui sont là et puis qui prennent les choses en main pour que le pire ne se produise pas. Mais par contre, dans Juges 19, il n'y a pas d'intervention surnaturelle, et puis l'histoire humaine suit son cours avec ce que les hommes ont voulu en faire. Et je crois que d'un côté, c'est presque d'un côté plus réaliste qu'il y ait des fois où dans la Bible, où l'histoire humaine suit son cours avec ce que les hommes veulent en faire et avec toute leur méchanceté. Parce que si il y avait dans la Bible que des jolies histoires où il y a un ange qui intervient et puis où rien de mal se produit, eh ben nous qui vivons dans un monde où on sait qu'il se passe des choses horribles, on se dirait, bon, ok, la Bible c'est bien joli, mais il y a toujours un truc incroyable qui se passe et puis pour nous qui vivons dans un monde où le pire se produit des fois, eh ben, ça ne nous rejoint pas, ça ne nous concerne pas. Donc, je crois que c'est d'un côté bien que la Bible ait ce côté réaliste où elle sait comment est l'être humain, elle sait ce qui peut se produire quand les êtres humains suivent les penchants de leur cœur. Donc, il n'y a pas cet aveuglement un petit peu mièvre qui dit, ouais, mais finalement, tout s'arrange à la fin. Ben non, des fois, tout s'arrange pas. Donc après, si on regarde la suite de l'histoire, il y a encore ce côté, j'ai envie de dire gore, je ne sais pas s'il y a d'autres expressions qui seraient plus appropriées, où le Lévite rentrait chez lui, découpe le cadavre de sa femme en petits morceaux pour en envoyer des bouts dans toutes les tribus d'Israël. Bon, on peut se demander, mais pourquoi il fait une chose pareille? Alors, faut se rappeler la petite mention qu'il y avait au début du chapitre. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Ça veut dire, il n'y avait pas une autorité vers qui il pouvait aller dire, voilà ce qui s'est passé, il faut faire quelque chose, régler ça. La seule manière d'obtenir justice ou réparation, c'était de susciter assez d'indignation parmi les tribus d'Israël pour qu'on se bouge, qu'on se rassemble et puis qu'on décide de faire quelque chose. Et donc, il n'envoie pas juste des messagers, il envoie des messagers avec un signe très concret et très choquant de ce qui s'est passé pour forcer tout le monde à réagir. Et puis, si je dis rapidement qu'est-ce qui se passe dans la suite, effectivement, ça suscite l'indignation et puis toutes les tribus d'Israël se rassemblent et puis reconnaissent que ce qui s'est passé là, c'est quelque chose d'inadmissible, c'est quelque chose qui devrait, devrait pas pouvoir exister en Israël. Et puis donc, ils décident qu'il faut punir les gens qui ont fait ça à Gibeah. Et puis, Ben, ils envoient des messagers à la tribu de Benjamin pour dire, voilà ce qu'ils ont fait, faites sortir les gens qui ont fait ça pour qu'on puisse les punir. Mais à la place, Benjamin refuse de punir les coupables et puis se rassemble en ordre de bataille pour protéger Gibéa du reste d'Israël qui voudrait les punir. Et puis, là, c'est d'un côté, et puis le reste d'Israël. Et puis il faut s'y prendre à trois fois et c'est aussi dur pour Israël qui perd beaucoup d'hommes dans l'affaire. Mais à la fin, Benjamin est vaincu et puis ça se finit en quasi-extermination, dans le sens tous les hommes de Benjamin qui sont venus en bataille sont tués, à part 600 qui ont réussi à s'enfuir plus loin. Et puis les villes de Benjamin sont incendiées, passées au fil de l'épée, les habitants avec le bétail. Et puis ça non plus, ça ne nous semble pas très réjouissant, et puis c'est passablement violent. Mais là, j'ai envie de faire le parallèle avec la conquête de Canaan par Josué. Là aussi, quand les Israélites sont arrivés avec Josué, ils ont aussi passé par le fil de l'épée tous les habitants des villes qui conquéraient. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce que ces nations étaient perverties, parce que ces nations avaient un comportement tel qu'il y avait un cri qui était monté vers Dieu contre elles. Et donc c'était aussi en partie le jugement de Dieu contre ces nations qu'Israël exécutait lors de la conquête. Et puis c'était aussi le fait que si on laissait ces nations païennes rester au milieu d'Israël, eh ben, elles risquaient d'entraîner Israël à se comporter de la même manière, et puis donc d'empêcher qu'Israël remplisse son rôle d'être un témoignage de Dieu dans le monde et dans la région où il vivait. Puis alors, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode des juges? Il se passe qu'il y a une tribu d'Israël qui est devenue aussi mauvaise que les nations qu'Israël avait dû chasser en arrivant. Et donc, il y a une ville où il y a des gens qui sont capables de violer à mort une personne qui est de passage chez elle. Et puis, on a toute une tribu qui préfère se solidariser avec cette ville-là plutôt que de voir ce qu'on peut faire pour ôter ce problème-là. Et là, j'ai envie de dire, ça montre aussi que dans la conquête avec Josué, il n'y a pas un racisme. Dans le sens, quand une tribu d'Israël devient aussi mauvaise que les nations qu'Israël avait dû chasser, eh ben elle est traitée avec la même rigueur que les nations qui étaient là quand Jésus est arrivé. J'ai dit quoi? Quand Josué est arrivé. Ouais. Donc, il y a. Ouais. Alors, je veux dire, je ne suis pas entièrement capable de dire si les Israélites ont eu tout à fait raison dans la manière dont ils ont géré la crise avec Benjamin, mais au minimum, ils ont été cohérents. Et puis, ouais, je crois que si on prend l'histoire en ensemble maintenant, qu'est-ce que ça montre? Je crois que ça montre à quel point l'humanité peut être mauvaise. Ça montre qu'il n'y a pas dans la Bible un aveuglement sur la question du mal. Et puis je crois qu'il y a aussi la petite mention du début. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon, qui est importante. Parce que ça montre, voilà une époque où il n'y avait pas vraiment d'autorité qui mette des règles en place et puis qui mette des limites à ce qu'on fait, à ce qu'on ne fait pas. Et ce texte nous montre, si on laisse l'homme aller à faire chacun ce qui lui semble bon, eh bien on peut en arriver là, on peut en arriver à des atrocités pareilles et en arriver à ce que les mesures qu'il faille prendre pour contrer ça soient pratiquement. Soit aussi extrêmement violente, extrêmement dure. Et puis, je crois que c'est important que cet aspect-là apparaisse aussi dans la Bible, parce que ça nous montre finalement dans quel genre d'humanité Jésus est venu, dans quel genre d'humanité Jésus est venu sauver. C'est pas juste des gens qui ont des petits problèmes psychologiques et puis qui des fois se parlent pas très bien les uns aux autres. L'humanité que Jésus est venu sauver, c'est une humanité qui est prête à en venir là. Et pourtant, Jésus a été prêt à y descendre pour venir nous sauver, pour venir nous transformer et nous réconcilier avec Dieu. Et puis, si on reprend les quelques histoires que j'ai mentionnées, dans Genèse, on voit une manière dont Dieu peut agir vis-à-vis du mal, c'est-à-dire protéger lui-même les innocents, punir lui-même les coupables, et puis voilà. Dans Juges, on voit une autre manière dont il a pu agir, c'est-à-dire laisser l'homme se débrouiller avec ses mauvaises intentions, et puis laisser aller là où il va, et après laisser entre des mains humaines le fait de punir le mal, le fait de rétablir la situation. Et puis, en Jésus-Christ, il a choisi une troisième manière d'agir. Il a choisi d'être lui-même celui qui subit le mal auquel l'homme peut en arriver, et puis d'être lui-même celui qui subit la punition pour tout le mal qui a été fait. Et je dirais c'est seulement par une grâce de Dieu qu'on vit pas toujours des choses comme elles peuvent se passer dans Juges 19, et c'est seulement par une grâce de Dieu qu'on subit pas tous le même genre de punition que celle qui s'en est suivie. Je crois qu'on peut vraiment retenir de ce passage qu'on vit dans un monde assez terrible et que l'être humain peut en venir à des extrémités vraiment atroces, et que pourtant Dieu veut agir pour sauver, pour réconcilier les gens avec lui et pour transformer. Et ce n'est pas des choses qui sont faciles, mais je crois que si on veut être réaliste dans notre regard sur le monde, faut être prêt à se confronter aussi à ces textes-là et à toutes les choses qui y ressemblent, qui se passent dans notre monde aujourd'hui. Je propose peut-être qu'on garde 2 minutes de silence pour digérer tout ça avant de passer à la suite du culte.